Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes à la veille de Noël, la soi-disant naissance de Jésus-Christ. Nous savons bien que Jésus-Christ n'est pas né à Noël parce que une des raisons bibliques, c'est que les bergers gardaient les brebis dans les champs. Et je vous garantis qu'en Israël, en ce moment, les bergers ne gardent pas les brebis dans les champs. Il fait trop froid. Donc voilà, moi, à mon avis, Jésus est né plutôt au printemps. Mais bon, on fête Noël quand même, parce que les enfants à l'école parlent de ça, tout le monde parle de ça. Alors, on ne veut pas priver nos enfants, n'est-ce pas, et les mettre complètement en porte-à-faux avec tout ça. Donc en fait, et puis voilà, mais je sais pas forcément, on sait bien que c'est pas la naissance de Jésus. Mais on se fait des cadeaux quand même. Voilà, et ça fait plaisir de passer un bon moment ensemble encore, un moment un peu spécial quand même, où c'est vrai, on pense que à Jésus qui est né une fois. Il est né une fois. Bon, voilà, c'est Noël, c'est pas Noël, il n'y aura pas de date, on ne sait pas. On n'est pas. Je ne pense pas que c'est une hérésie de fêter Noël, comme certains chrétiens pensent. Mais que Dieu les bénisse, ils sont sincères sans doute, mais voilà. On va lire dans Jean chapitre 8, verset 29. Jean 8, verset 29. Jésus dit : Celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire son Père, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Il y a une raison. Pourquoi est-ce que Dieu est avec nous? C'est parce qu'on fait ce qui lui plaît. D'accord? Quand nous étudions l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu des périodes où, pendant lesquelles le peuple d'Israël honorait les alliances avec Dieu, servait Dieu, l'adorait. Et puis il y avait d'autres périodes pendant lesquelles ils se détournaient de Dieu, ils faisaient n'importe quoi, et ils adoraient les faux dieux, et c'était la cata. Durant le règne de Akab, ça a été une période d'apostasie terrible dans le royaume du nord qui s'appelait Israël, l'autre c'était dans le sud, on l'appelait Juda. Le royaume était divisé. Alors le prophète Élie a demandé au roi Akab de rassembler le peuple et ainsi que les prophètes de Baal sur un mont qu'ils appellent le mont Carmel, qui existe toujours, j'y étais. Et quand tout le monde a été rassemblé dans ce lieu, eh bien, Élie leur a dit ça. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? C'est-à-dire, quelqu'un qui boite, en général, il cloche d'un pied. Mais eux, ils étaient très forts, ils clochaient des deux pieds. C'est fort, hein? C'est-à-dire qu'ils étaient ni d'un côté, ni vraiment de l'autre. Voilà. En d'autres termes, quand est-ce que vous allez vous décider une fois pour toutes? C'est ça la chose. Quand est-ce que vous allez vous décider une fois pour toutes? Si l'Éternel est Dieu, ben allez après lui. Si c'est Baal, allez après Baal. Et le peuple n'a rien répondu. Rien. Alors Élie s'est tourné vers les prophètes apostats et il leur a ordonné de préparer un sacrifice. Et Élie leur a dit, ne mettez pas le feu à votre sacrifice. Vous allez invoquer Baal et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, ce sacrifice que je prépare, et le Dieu qui répondra par le feu, eh bien celui-là sera Dieu. C'est-à-dire que si le feu tombe du ciel sur le sacrifice préparé par les prophètes de Baal, ben c'est Baal que nous servirons. Mais si le feu tombe du ciel sur mon sacrifice que j'ai préparé en invoquant le nom de l'Éternel, eh bien, c'est celui-là qui sera Dieu. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et le peuple dit, ok, c'est bien, ça on veut bien. Là, c'est bien. Vous voyez, le peuple veut toujours des preuves. Mais aujourd'hui, même les preuves, ils s'en fichent. Un homme qui a des miracles, un homme qui a des résurrections de morts, bon, c'est plus impressionnant. Ça n'impressionne pas. On dit oui, mais ça vient peut-être du diable. Hein? Voilà. Donc, on n'écoute pas. Voilà, c'est comme ça. Vous avez tous lu ce qui s'est passé dans la Bible, je pense, Les prêtres de Baal ont appelé leur dieu fictif en poussant des hurlés, en criant, en braillant, en se faisant même des incisions, et il n'y a rien qui s'est passé. Alors Élie, il se moquait un peu d'eux. Oh, il se moquait. Oh, le vilain. Oh, mais criez plus fort, peut-être qu'il dort. Oh, il s'est moqué, il ne faut pas se moquer. Ben, Élie, lui, s'est pas gêné. Alors Élie se présente et il ordonne qu'on arrose son sacrifice avec de l'eau, mais plein de flotte, sur le bois, sur l'offrande, sur l'autel, et même autour, dans le fossé qui était autour de l'autel, et trois fois de suite. Mettez-en encore. Et puis il s'avance et il dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et le feu de l'Éternel est tombé sur l'Holocauste, il a tout consumé, même l'eau, il n'y en avait plus, le bois, la terre, tout était cramé. Et quand le peuple a vu ça, ils sont tombés sur leur visage et ils ont dit: vraiment, l'Éternel est Dieu, vraiment, l'Éternel est Dieu. Ah. Aujourd'hui, vous priez pour des gens, moi j'ai vu ça, hein. Je prie pour des gens. Ils ont des gens qui se rallongent publiquement, dans tout le monde. Ben, il y en a qui trouvent encore moyen de douter. Prie pour un aveugle, il recouvre la vue, il y a encore des gens qui se trouvent là pour douter. Oh, mais oh, est-ce que vraiment... Le peuple aujourd'hui est devenu dur, terriblement dur, terriblement dur. Alors ne vous étonnez pas si Dieu va frapper dur. C'est parce que vous êtes dur d'entendement. C'est parce que vous avez annulé la parole de Dieu avec vos traditions et vous croyez vos traditions plus que Dieu. Et que vous êtes empêtré là-dedans et que vous êtes certain que ce sont vos traditions qui sont vraies. Vous êtes devenu dur et il n'y a rien qui vous touche. Il n'y a plus rien qui vous touche. Que dirait Élie de nos jours ? Soit Dieu, notre Père Céleste, existe, soit il n'existe pas. Mais il existe. Alors adorez-le. Vous en avez vu assez des guérisons, vous en avez vu assez des miracles. Soit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, soit il est le Rédempteur ressuscité, soit il ne l'est pas, mais il l'est. Alors suivez-le, adorez-le. Il l'est et il le prouve. Maintes fois, il l'a prouvé et il le prouve encore. Vous avez des vidéos, des miracles que Jésus fait sur notre site révélationbible.fr. Regardez ça. Il y a des gens qui m'écrivent et qui disent: moi, j'ai jamais vu de miracle, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Je leur dis: alors regardez cette vidéo. Ils me disent: qui me dit que ce n'est pas un trucage? Mais allez au diable à la fin, mince! Décidez-vous! Moi, je vais vous dire la vérité. C'est que vous aimez tellement votre péché que c'est pour ça que vous ne voulez pas servir Dieu. C'est pour ça que vous ne voulez pas suivre Dieu. C'est parce que vous aimez votre péché. C'est ça la vérité. Soit la Bible et le livre de Mormon sont inspirés par Dieu, soit ils ne le sont pas. Mais ils le sont. Alors rapprochez-vous de Dieu en étudiant et en suivant les préceptes de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur le net, vous n'avez pas besoin de vous demander ce qui est vrai et ce qui est faux. Si vous vous demandez ce qui est vrai et ce qui est faux, la réponse viendra de vous. Il faut invoquer le nom de l'Éternel sur votre vie, que le feu tombe sur vous, que le feu de Dieu tombe sur vous, que le Saint-Esprit tombe sur vous et vous assure et vous confirme et vous assure que c'est vraiment lui qui est l'Éternel Dieu. Vous pouvez connaître par le feu de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, vous pouvez connaître ce qui est vrai et ce qui est faux d'une façon personnelle aujourd'hui. Nous ne sommes plus au temps d'Élie, nous sommes maintenant dans une nouvelle dispensation où le Saint-Esprit parle, mais il ne parle pas à ceux qui sont inconstants. Tout ce qui est bon, c'est juste et c'est vrai. C'est pourquoi rien de ce qui est bon ne nie Jésus-Christ et ce qu'il est. Certains me disent, oui, mais le livre de Mormon, ça ne peut pas venir de Dieu. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez même pas lu. On vous a dit, et vous avez cru, parce que ça vous arrange. Parce que si vous lisiez ce livre, vous connaîtriez un témoignage extraordinaire au sujet de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Et ça réconforterait votre foi, parce que c'est un message pour notre temps. Mais vous ne voulez pas le lire. Restez dans votre ignorance, c'est parce que vous aimez votre péché. C'est parce que vous aimez votre tiédeur. C'est par la révélation personnelle que vous pouvez recevoir votre propre témoignage. Une révélation personnelle pour vous, le feu de Dieu qui descend sur vous. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui, Jésus, vous remplira, vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Vous avez besoin de ce feu qui consume les mauvaises choses de votre vie. Souvenez-vous que Jacques a promis qu'à celui qui cherche la sagesse, Dieu la donne sans faire de reproche d'une façon tout à fait simple. Mais il ajoute que celui qui demande la sagesse la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, il est agité par les vents, il est poussé d'un côté d'un autre. Qu'un tel homme, une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Rien. Rien. Il faut que vous croyez. Seigneur Dieu, je te demande la sagesse. Et maintenant, je crois que tu me l'as donnée. Et je vais lire les Écritures. Et je vais avoir la confirmation par le Saint-Esprit. Parce que tu m'as donné la sagesse. Je le crois de tout mon cœur. Cette sorte de personnes qui doutent sont des gens irrésolus, inconstants dans toute leur voie. Ce n'est pas seulement avec les choses de Dieu qui sont inconstants, c'est avec tout. C'est avec tout. Regardons à Jésus qui, lui, est l'exemple parfait de la parfaite stabilité. Alors, vous savez, Jésus, ce n'est pas parce qu'il lui arrivait des tuiles, et il en arrivait, qu'il commençait à se décourager, à dire oui, enfin vraiment, c'est pas possible. C'est pas parce qu'il y avait des menaces de mort sur sa vie qu'il se laissait aller au découragement. C'est pas parce qu'on l'insultait qu'il était tout triste puis qu'il allait pleurer dans un coin en disant mais pourquoi Dieu permet ça? Il disait, le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comment pouvait-il savoir qu'il faisait ce qui lui était agréable? Par le Saint-Esprit, allez-vous me dire. Oui, bien sûr, mais parce qu'il faisait ce qui est écrit. Il a dit, voici, il est écrit de moi. Et il a dit, voilà, c'est ça, je suis cela. Il connaissait les Écritures. Ô vous qui m'écoutez, réfléchissez à ce que les Écritures disent des hommes et des femmes qui, comme Jésus, étaient fermes et constants. Ils étaient convertis à la vraie foi et ils ne voulaient pas s'en éloigner. C'est quoi la vraie foi? Un frère catholique m'a dit, mais vous ne croyez donc pas à la foi apostolique? Je lui ai dit, mais je ne crois que cela. J'ai la foi dans ce que Jésus et ses apôtres ont dit et qui est écrit dans la Bible. Ce que je ne crois pas, c'est tout ce qui a été rajouté après et ce que les églises ont enlevé de ce que les apôtres ont dit. Il croyait me faire la morale en me disant que je ne croyais pas dans la foi, je n'avais pas la foi apostolique. Mais qu'est-ce que c'est que la foi apostolique? C'est croire ce que les apôtres ont dit. C'est pas croire à les traditions qui ont été rajoutées. Ça peut être très joli, Noël, c'est tout mignon. Les gens qui ont la vraie foi sont fermes, sont constants, sont immuables. Ils veulent, en toutes circonstances, garder les commandements du Seigneur qui sont dans la Bible et aussi dans le livre de Mormon, qui est un autre témoignage de Jésus-Christ. Ce n'est pas un témoignage différent, mais c'est un témoignage qui vient appuyer encore. Jésus a dit, j'ai des brebis qui ne sont pas de ce peuple, mais je vais aller leur parler, ils entendront ma voix. Et il est allé là-bas et il leur a parlé. Et tout ça, ça se trouve dans le livre de Mormon. Vous ne voulez pas le lire, mais ne le lisez pas. Lisez Gala. Lisez voici, hein. Intéressez-vous au procès de la mère Boudou, intéressez-vous à toutes ces niaiseries, ça c'est bien ça.
Mais surtout, ne prenez pas soin de votre âme pour lui donner la bonne nourriture dont elle a besoin, la parole de Dieu. Vous allez dire, ben Michel, quel message de Noël ? Oui, ben moi, je ne suis pas comme les autres pasteurs qui viennent vous raconter des histoires de bergers avec leurs brebis, puis les rois mages qui arrivent avec l'étoile, ça vous le savez, il n'y a pas besoin de vous le dire. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous convertir, de changer de vie, d'être immuable. Ceux qui sont fermes, constants et immuables, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, de la Bible, pas d'autre chose. Ils persévèrent là-dedans, dans rien d'autre. Ils persévèrent dans la communion fraternelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ben, du temps de Jésus, du temps des apôtres, persévérer dans la communion fraternelle, c'était pas aller à l'église, c'était être l'église, c'est être en communauté, d'être ensemble, de persévérer ensemble, de prendre ses repas chaque jour ensemble, et d'avoir des buts en commun. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux parce qu'ils partageaient tout, ils mettaient toutes choses en commun, ils persévéraient là-dedans. Vous êtes sûr que vous êtes dans la foi apostolique ? Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les prières. Acte 2, chapitre 2, verset 42. Voilà, ils persévéraient. Ils étaient constants, ils étaient immuables, ils étaient fermes là-dedans. Pour être ferme, constant, immuable dans la foi en Jésus-Christ, il faut que la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, persiste dans vos cœurs. Ça ne suffit pas que l'évangile soit une des nombreuses influences de votre vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous influencer, qui ont l'air vraies, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Pardon. Chez nous, pardon. Chez nous, si ils sont dit, j'ai avalé par le trou du dimanche. Je ne sais pas si vous entendez cette expression, mais il ne faut pas avaler par le trou du dimanche. Il faut avoir une foi ferme, constante, immuable, que les Écritures sont l'épicentre de ce qui définit notre vie, notre comportement, notre personnalité, que ce soit les Écritures et rien d'autre. Jésus a mis en celui qui est ferme un cœur nouveau, nous dit la Bible. Merci Olivier. Et il a ôté de notre corps le cœur de pierre, dur, pour mettre un cœur tendre, un cœur de chair. Voilà ce que Jésus fait quand il vient dans la vie de quelqu'un, sensible. Il a mis son esprit en nous, le feu qui est descendu du ciel sur nous. Il a fait en sorte que nous puissions suivre ses ordonnances et que nous obéissions et que nous pratiquions ses lois. C'est l'œuvre de Dieu, ça. Si ça n'est pas en vous, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que vous avez une religion, mais que vous n'êtes pas forcément en communion avec Dieu, que le feu de Dieu n'est pas tombé sur votre vie, que le feu du ciel n'est pas descendu sur vous pour consumer ce qui... Je crois que vous m'avez compris. Alors, il est notre Dieu. On va lire Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Voilà ce qu'il dit. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre de votre chair, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai vivre selon mes lois, et je vous ferai respecter mes ordonnances et leur obéir. » Et puis, il y a un autre texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 3:3, qui dit « Vous avez fait clairement comprendre que vous êtes une lettre du Messie, remise à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais dans des cœurs humains. Vous êtes personnellement une lettre de Dieu qui peut être lue par tout le monde, qui n'est pas écrite avec de l'encre, mais qui est écrite par le feu de Dieu. » Non pas sur des tables de pierre, mais sur votre cœur. C'est ça que vous êtes. Quand vous êtes véritablement ferme, constant, immuable sur la parole de Dieu, refusant de trahir la parole de Dieu au profit des traditions. Hein? Ce que la Bible dit, c'est pas la mienne, hein? La vôtre aussi, elle dit ça. C'est ça l'alliance que nous avons fait quand nous sommes descendus dans les eaux du baptême. Mais certains ne sont jamais descendus dans les eaux du baptême. Et se disent chrétiens, ils ont été aspergés avec un peu d'eau quand ils étaient bébés. Et ils pensent que c'est juste. C'est faux. C'est faux. C'est un faux baptême. C'est même pas, le mot baptême n'est pas adapté, puisque baptême signifie immersion. On peut, même si on est tout petit, même si on a un bébé, trois gouttes, ça ne suffit pas à immerger. Vous n'avez pas été baptisé, vous n'êtes pas baptisé. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous n'avez pas été baptisé. Déjà là, vous avez commencé à dévier. Ce n'est pas vous qui avez dévié, on vous a fait dévier. Mais maintenant, vous, vous êtes adulte, capable de raisonnement, capable d'intelligence, de sagesse. Et si vous manquez de sagesse, vous pouvez la demander à Dieu et il vous la donnera. Et vous allez faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais ça vous coûte quoi d'obéir à Dieu? Mais ça vous coûte quoi de ne pas lui obéir? Réfléchissez. D'autres ont été immergés dans l'eau, ils ont été plongés dans l'eau, mais il leur manque autre chose. Parce que la Bible dit, comme Christ est ressuscité des morts, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alors, ils ont été baptisés, plouf, puis ils sont sortis de là, puis ils ont continué à vivre comme avant. Bon, voilà. Ah ben, moi, je suis baptisé, mon frère. Romains 6, 4. De même que Jésus-Christ est mort, nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ dans sa mort, en étant baptisés, le baptême d'eau, l'immersion dans l'eau, c'est le symbole de cela, et bien de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie, c'est-à-dire que quand il est ressuscité, et bien nous sommes ressuscités avec lui. C'est dans Romains chapitre 6, verset 4. Est-ce que vous avez vraiment une vie nouvelle? Ainsi, l'Évangile ne se définit pas encore dans beaucoup de chrétiens. Ils ne sont pas encore centrés sur Christ. Ils croient, mais un petit peu comme ces Juifs du temps d'Élie qui ne répondaient pas parce qu'ils étaient dans la confusion. Est-ce que c'est Baal? Est-ce que c'est Dieu? Ils ne savaient pas trop. Ils ne pouvaient pas répondre « c'est Baal ». Parce qu'ils savaient bien que ce n'était pas tout à fait ça. Ils ne pouvaient pas répondre « c'est Dieu » parce que... c'était difficile, puis il y avait tous leurs copains qui étaient avec Baal. C'est difficile de quitter les copains. Oui, oui, c'est difficile. Quand tu te trouveras devant le trône de Dieu, le jour du jugement, tes copains ne seront pas là pour t'aider à aller au paradis. Hein. Ils choisissent les points de doctrine qui leur plaisent, ils choisissent les commandements qu'ils veulent suivre, ils décident quand ils vont servir dans l'église ou pas. Nous étions en train d'étudier l'histoire des Mormons, encore vendredi passé dans la communauté, et nous avons lu que, vous savez, les Mormons au commencement, ils ont fait une boulette, bon bah, tout le monde fait des boulettes, ils en ont fait une, ils se sont mis à vivre le mariage plural, c'est-à-dire à être mariés avec plusieurs femmes pour avoir beaucoup d'enfants. Ils pensaient que comme ça, ça hâterait le retour du Seigneur, parce qu'en ayant beaucoup d'enfants, eh bien quand le nombre complet serait atteint, eh bien le Seigneur reviendrait. Enfin, c'était un raisonnement qui était... Ils se sont plantés. Bon ben voilà, ils se sont plantés. Et puis, ils ont changé. Ils ont abandonné cette idée. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, voilà ce que je voulais dire. L'État, les États-Unis, les ont persécutés à cause de ça. Ils les ont massacrés, mis en prison, saisi leurs biens à cause de ça. Et aujourd'hui, ces mêmes États-Unis, parce qu'alors après, les Mormons ont dit, oui, c'est ça, vous avez raison, on arrête ça, on arrête, c'est interdit, on ne le fait plus. Mais le même États-Unis, les mêmes États-Unis aujourd'hui qui interdisaient le mariage plural, ils autorisent le mariage des homosexuels. Excusez-moi, et dire encore que je suis méchant. Non, je suis simplement ce que la Bible dit, c'est tout. Vous voyez, vous ne devez pas suivre le monde, ce n'est pas le monde que vous devez suivre, c'est Jésus-Christ. Alors je ne dis pas que les Mormons avaient raison de se marier avec plusieurs femmes, mais je dis que même l'État peut vous induire en erreur et en péché. Il faut que vous suiviez le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'une chose est légale qu'elle n'est pas péché. L'avortement, c'est péché. Désolé. Bon, pas tous les avortements. Si vous avez été violé, alors je comprends que vous vous fassiez avorter. Si votre vie est en danger parce que votre enfant est malade dans votre ventre, faites-vous avorter si vous risquez de mourir. Il y a des choses, des exceptions. Mais toutes ces bonnes femmes et ces bonhommes hommes qui copulent dans tous les coins, puis qui font, qui engrossent des... Et puis alors après, elles vont avorter comme ça pour... Mais c'est quoi ça? C'est pas selon le plan de Dieu. C'est pas bien. Il faut le dire, il faut que quelqu'un le dise, je le dis. Voilà, je serai impopulaire encore un peu plus. Mais tant pis, je dis ce que j'ai à dire. Alors, ne choisissez pas les points de doctrine et les commandements que vous voulez suivre. Non, mes frères et sœurs. Il est difficile, mais il est essentiel de demeurer ferme, de demeurer constant lorsque nous sommes des véritables chrétiens. Parce que quand nous sommes constants et fermes, alors dans le moment où nous sommes dans la fournaise de l'épreuve, de la difficulté, eh bien, nous sommes encore fermes, parce que nous avons pris l'habitude d'être fermes. On y passe tous par là, la difficulté, par l'épreuve, par les problèmes, la maladie, le deuil et toutes ces choses-là. Dans la fournaise. Et sans Dieu, ces expériences sombres, mes frères et sœurs, elles nous poussent au désespoir, elles nous poussent au découragement. Mais avec Dieu, la consolation remplace la douleur. Vraiment. Avec Dieu, la paix remplace la tourmente. L'espérance remplace le chagrin. Vraiment. En demeurant ferme et constant dans la foi, nous recevons le secours de sa grâce. Nous recevons son soutien, il est là véritablement pour nous soutenir de sa droite triomphante. Il nous dit, ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi, je te soutiens. Tu vas t'en sortir, mais fais-moi confiance, sois ferme. Et pour reprendre l'expression d'Élie, il nous donnera un diadème au lieu de la cendre. Ésaïe chapitre 61 verset 3, c'est Ésaïe qui a dit ça. Ouais, t'as de la cendre sur la tête, mais Dieu va mettre à la place, il va l'enlever, il va mettre un diadème. C'est normal qu'on passe par des épreuves. Quand on ne passe pas, quand on passe par la fournaise, ce que notre foi a fait alors que nous étions en train de nous préparer, elle continue à le faire. Nous continuons à être fermes et constants. Et quand on est dans la fournaise, on se souvient des moments de joie, des moments quand nous avons été visités par le Saint-Esprit, des moments glorieux, des merveilleuses choses qu'on a vécues avec Jésus, et tout ça, ça nous réconforte. On se dit, non, Dieu ne m'abandonne pas, c'est simplement, je passe par une épreuve, c'est comme ça, et même si je meurs, la mort m'est un gain, comme disait Violette, je ne sais pas si vous avez écouté son témoignage l'autre jour. Elle dit, même si je meurs, la mort m'est un gain. Vous voulez quoi de plus? Mais ceux qui ne sont pas fermes, ils n'ont pas l'assurance. Beaucoup de chrétiens qui me disent, « Oh, moi je déteste les chrétiens évangéliques qui disent, j'ai l'assurance de mon salut. » Mais Jésus est notre sauveur. Si nous croyons qu'il est notre sauveur, nous sommes sauvés. Mais si on est indécis, on ne peut pas être sûr. Vous voyez, vous devez être ferme et constant. Cette paix, elle ne vient que si nous n'endurcissons pas notre cœur, que nous ne raidissons pas notre cou dans l'orgueil contre Dieu, contre sa volonté écrite. Voilà, cette paix vient là, sur cette sorte de personne. Le feu du ciel descend sur cette sorte de personne. Frères et sœurs, demain soir, on va fêter la soi-disante naissance de Jésus, comme je vous disais tout à l'heure. On sait bien qu'il n'est pas né à Noël, mais il faut que vous vous souveniez de cela. Demeurez ferme et constant en Jésus-Christ et vous pourrez atteindre la conversion dont Jésus a parlé à Pierre quand il lui a dit « Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Pierre, mais attends, il n'était pas converti? Non, il n'était pas converti. Il avait fait des miracles, il avait suivi Jésus pendant des années, il n'était toujours pas converti. Jésus lui dit « Quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. » Une conversion si complète qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Voilà de quelle conversion Jésus parle. Quand j'étais petit, ma maman disait toujours, mange ta soupe si tu veux devenir grand. Mon papa, il était tout petit, il était grand comme ça. Mais j'ai mangé bien beaucoup de soupe. J'ai mis un gros plein de soupe. Non. Elle avait raison. Et dans le contexte de la foi, mange ta soupe, c'est prier constamment. C'est faire quotidiennement un festin des Écritures, de se nourrir des Écritures, de prendre dignement la Sainte Cène, d'aimer notre prochain, de prendre chaque jour notre croix dans l'obéissance à Dieu, dans la soumission à Dieu, même si ça ne plaît pas à notre chair. Je vais terminer ce message par une petite phrase. Vous tous qui avez le cœur purifié par le sang de Jésus-Christ, levez la tête et recevez la parole agréable de Dieu, je vous en supplie. Faites un festin de son amour. Vous le pouvez chaque jour si votre esprit est ferme. Si votre esprit n'est pas ferme, vous avez des moments de « Alléluia !» puis après, vous glissez. « Ah, pas, je suis découragé, j'ai trop de problèmes, j'en peux plus. Je vais mourir. » Mais moi aussi, je vais mourir. On va tous mourir. Et alors, la mort m'est un gain. Mais qu'elle vienne, la mort. Je me réjouis de partir, retrouver Osborne, ma mère, mon père, Camilla, Violette, Raphaël, Daisy, tous ceux qui nous ont précédés. C'est pas que j'ai envie de mourir, j'aime bien la vie aussi. J'aime bien la vie, j'aime bien vivre. Mais si la mort vient, ben alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est bien pour un chrétien qui sait, qui a l'assurance, qui est ferme, qui est constant. Et c'est ce que je vous souhaite et je prie pour que vous le soyez. Que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, bénis mes frères et sœurs en cette fin d'année. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont faire des vœux. Ben, arrêtez de fumer. Ben, je vais arrêter de manger des cornichons. Ah, cette année, je dirai plus de gros mots. Cette année. Prenez la décision de marcher fermement avec Jésus. Prenez cette décision dans la prière. Père, je te prie vraiment de tout mon cœur que le message que j'ai donné, qui est un peu sévère aujourd'hui, puisse toucher les cœurs et que mes frères et sœurs, qui sont un peu brinque-ballons, s'affermissent dans leur foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir.